un podcast France Culture.
C'est une petite pépite de la chaîne HBO qui figure régulièrement dans le top 10 des meilleures séries de tous les temps. Trémé de David Simon et Eric Overmyer nous emmène dans ce quartier de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, 3 mois après le passage de l'ouragan Katrina. Un faubourg populaire considéré comme le berceau du jazz. Dès la fin du 19e siècle, des musiciens afro-américains inventent ce nouveau genre qui va ensuite prospérer dans les clubs des villes industrielles du Nord, créant une économie à part entière. Nous allons retracer l'histoire économique du jazz jusqu'à 15h avec Laurent Cuny, professeur à la faculté des lettres de Sorbonne Université et ancien directeur de l'Orchestre National de Jazz, auteur d'une histoire du jazz, une musique pour les 20e et 21e siècles aux éditions Frémaux et Associés. Également avec nous, Pauline Peretz, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, spécialiste des minorités aux États-Unis, autrice de cet ouvrage « L'Amérique post-raciale, point d'interrogation » paru aux Presses universitaires de France. Une émission préparée par Diane Devancé, Tina Young, Léa Sabourin, Léopold Thiévan, Anouk Milio et Inès Gender.
Do you know what it means to miss New Orleans? And miss it each night and day. I know I'm not wrong. The feeling's getting stronger the longer I stay away. Miss the moss-covered vines, the tall sugar pines where mockingbirds used to sing. And I'd like to see the lazy Mississippi hurrying to spring.
Bonjour Pauline Peretz, c'est Laurent Cuny.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez peut-être reconnu Billie Holiday qui apparaît avec Louis Armstrong dans le film New Orleans, réalisé par Arthur Lubin en 1947. C'est en effet à la Nouvelle-Orléans que le jazz est né, dans une Amérique marquée par la guerre de sécession et la fin de l'esclavage. Pauline Peretz.
Oui, les relations entre Africains, Américains et Blancs se reconfigurent complètement après la guerre de sécession. On sait que le Nord, anti-esclavagiste, l'emporte sur le Sud et va imposer au Sud, dans un premier temps, l'abolition de l'esclavage et donc l'abolition de la condition servile. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on voit se mettre en place une égalité politique, économique, sociale entre Africains, Américains, nouvellement... sortie de l'esclavage et les Blancs. Il y a une période d'aménagement pendant laquelle le Nord impose en fait l'égalité politique des Noirs et des Blancs au Sud. Et puis très rapidement, en fait, lorsque les troupes fédérales reviennent dans le Nord, eh bien, les États du Sud vont mettre en place un cadre législatif qu'on appelle les lois Jim Crow, qui sont des lois de ségrégation très strictes, qui vont complètement séparer les Africains-Américains nouvellement affranchis et les Blancs. Mmh. Les Blancs sont dans un état de panique à l'idée de se trouver dans une proximité raciale physique avec les Africains-Américains nouvellement affranchis.
Ce qu'il faut peut-être expliquer, Pauline Peretz, c'est que en cette fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il n'y a pas un, mais plusieurs Suds aux États-Unis.
Oui, on passe en fait d'une exploitation du coton, du tabac dans des grandes exploitations du Sud à un Sud qui prend différents visages. Il y a un Sud qui est très agricole, un Sud dans lequel des villes commencent à se développer, notamment dans les villes portuaires où vont apparaître des emplois dans l'industrie, des emplois aussi dans les docks. Et on va trouver beaucoup d'Africains américains dans ces ces métiers-là. Et donc, on voit comment, en fait, les Africains-Américains étaient jusque-là vraiment concentrés sur le travail manuel dans les champs, sous supervision blanche. Et puis, alors, certains vont rester métayers dans des exploitations qui sont toujours détenues par les Blancs. Et puis, d'autres vont commencer à travailler comme main d'œuvre. D'autres encore, et une minorité évidemment, vont travailler vont créer une forme de bourgeoisie noire dans certaines de ces villes du Sud.
Et c'est donc dans cette Amérique où apparaît un autre modèle de société fondé sur la suprématie blanche et la ségrégation raciale que naît le jazz, qui combine de multiples influences, Laurent Cuny.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que si on peut partir de ce point de repère qu'est la fin de l'esclavage, donc 1862-65, et en effet, il y a une, comme vient de le dire Pauline, il y a une telle reconfiguration de tous les éléments de la société, en fait, que ça affecte aussi la musique, et qu'il y a de multiples musiques qui sont plus ou moins juxtaposées jusqu'alors, et qui vont former une sorte de précipité qui va arriver quelques 30 ans plus tard, à une nouvelle musique qu'on appelle le jazz.
Mais donc un mélange de musique sacrée et de musique profane.
Absolument, oui. Alors il y a des musiques sacrées, des musiques profanes, il y a des musiques collectives, des musiques individuelles, évidemment des afro-américaines et des euro-américaines, et tout ça se mélange dans cette atmosphère de reconfiguration de tous les éléments de la société. Ça va très loin, et en effet la musique évidemment est partie prenante de ces changements, et donc ça va aboutir en effet à partir de 1900 à une nouvelle musique qu'on appelle le jazz.
La musique qui offre une forme d'émancipation à des populations noires qui, on l'a bien compris, sont extrêmement dominées, Pauline Perez.
Oui, dominées économiquement, dominées socialement, dominées politiquement, puisque ce sont dans le Sud des personnes qui n'ont pas le droit de vote, qui sont limitées à des espaces publics bien définis, des espaces pour les Africains-Américains. Mais les historiens ont quand même veillé à montrer que même lorsqu'ils étaient esclavagisés, les Africains-Américains avaient une forme de, on dit en anglais, agency, une part d'agentivité. Et que ce n'était pas... Enfin, évidemment, il y avait cette condition de dominer, mais qu'il y avait une capacité à aménager, à chercher un espace de liberté, et notamment un espace qui passait par la musique, par la danse aussi, hein, qui, je pense, accompagne aussi la naissance du jazz. Donc, le jazz, c'est un élément de créativité qui permet de réaffirmer une forme de contrôle sur une destinée qui est souvent très conditionnée par la pauvreté, par la maladie, par la domination blanche.
Et alors pourquoi le jazz est-il né à la Nouvelle-Orléans ? Parce que cette ville est une plaque tournante du commerce et qu'à ce titre, elle est un haut lieu de brassage culturel, Pauline Perez ?
Oui, c'est une ville où il y a également des minorités qui viennent de différentes cultures et pas seulement les Africains-Américains. Donc c'est un lieu de croisement qui a donné matière et naissance à cette effervescence culturelle dont on voit toujours les traces aujourd'hui, notamment lors du carnaval, avec des formes de musique très, très nombreuses.
Quelles sont les figures emblématiques de cette époque, de ces tout débuts du jazz, Laurent Cuny ?
Les figures musicales ?
Oui.
Oui, il y en a beaucoup, mais si on parle du jazz à proprement parler, la figure qu'on retient généralement, c'est Buddy Bolden, qui est considéré comme étant le premier musicien de jazz, mais il n'a jamais enregistré, donc on n'a jamais su comment ça sonnait. Donc je pense que ça participe un peu du mythe, d'ailleurs, c'est qu'au fond, c'est le premier musicien, mais on l'a jamais entendu. Et puis sinon, après, il y a aussi des musiciens qui sont pas rigoureusement des musiciens de jazz. Je pense à Marian Anderson, ou qui sont plutôt sur les spirituals et le gospel, mais qui ont une grande importance dans toute cette histoire. Et puis après, évidemment, Louis Armstrong, Sidney Bechet, qui vont être les premiers propagateurs, si on peut dire. Et j'en citerai quand même un dernier, parce que j'ai une affection particulière pour celui-là, c'est Jelly Roll Morton.
Qui s'est autoproclamé inventeur du jazz.
On n'a pas parlé de ça. Oui, qui s'est autoproclamé inventeur du jazz. Pour revenir un peu à la question de la Nouvelle-Orléans, c'est aussi une position géographique à l'embouchure du Mississippi, mais surtout à l'ouverture vers toutes les Caraïbes. Et évidemment, ça veut dire qu'il y a aussi une population créole et tout ça à jouer. Et Jelly Roll Morton est vraiment la figure un peu qui synthétise tous ces aspects.
Et bien, je vous propose d'écouter Deep Mouse Blues, une chanson attribuée à Joaquin Oliver, qui apparaît elle aussi dans le film d'Arthur Lubin, New Orleans. Joaquin Oliver, qui est cité par Mary Morris dans son roman Jazz Palace, qui raconte l'arrivée des musiciens noirs de la Nouvelle-Orléans à Chicago.
Avant de commencer à faire des livraisons pour les casquettes Lehrman, Benny ne connaissait pas grand-chose du monde, en dehors du quartier où il vivait, des White Sox dont il était un ardent supporter et du piano dont il jouait. Il avait vu les premières automobiles parcourir en cahotant les rues de Chicago, et il savait par ouï dire que des aéroplanes pouvaient voler. Il savait aussi que la Grande Guerre avait commencé en Europe et que Woodrow Wilson était président. Le Lusitania avait coulé en 18 minutes au printemps, noyant la plupart de ses passagers. Des sentiments anti-allemands se répandaient dans toute la ville. Dans les faubourgs de l'Ouest, on avait empoisonné des Doberman. Mais ces livraisons l'avaient entraîné ailleurs, le long d'une ancienne piste de trappeurs que certains appelaient Side Street, et la plupart, Satan's Mile. On prétendait que le diable vivait en ville, mais Benny aimait surtout aller dans le South Side, où habitaient les ouvriers des chemins de fer et les employés des abattoirs. La ville avait commencé à s'animer dans les ruelles. Hot, avait-il entendu dire qu'on appelait cette musique. En février, Joaquin Oliver et son ensemble de la Nouvelle-Orléans, composé de tous ces cuivres qui jouaient tous en même temps, avait fait sensation dans le South Side. King Oliver était un homme grand et gros, affligé d'un léger strabisme. Derrière son dos, les musiciens l'appelaient le bigleux. Mais il avait un sixième sens. Tout allait changer. Les Noirs et leur musique arrivaient dans le Nord. Ils construisaient des cahutes le long des voies ferrées, là où les trains les débarquaient.
Une lecture de Jazz Palace de Mary Morris par Diane Devancet de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Pourquoi le jazz arrive-t-il en effet dans les villes américaines du Nord dans les années folles, Laurent Cuny ?
Alors, il y a un événement qui est souvent cité, qui est la fermeture de Storyville. Donc, à la déclaration de guerre en 1917, la Nouvelle-Orléans est un des ports d'où partent les soldats pour l'Europe. Et on a pensé qu'en effet, le quartier de Red Light District, comme on l'appelait, le quartier chaud, était peut-être un peu trop distrayant pour des gens qui allaient se battre. Et donc, on l'a fermé et on dit que c'est la fin, justement, d'une économie du jazz qui était liée à celle de toutes ces activités interlopes. Et que donc, beaucoup de musiciens auraient été contraints de quitter la ville faute de travail et ils seraient montés sur les bateaux sur le Mississippi pour arriver à Chicago. En réalité, je pense que la réalité est un peu plus complexe que celle-là, mais de fait, il est vrai qu'il y a eu une migration, pas seulement de la Nouvelle-Orléans, mais à la suite de la période de la Reconstruction, il y a eu une migration vers le Nord, vers l'industrie naissante. Donc en fait, les anciens esclaves, pour une part, sont devenus des prolétaires dans l'industrie. Et donc, de fait, il y a eu une migration assez importante, dont certains musiciens de la Nouvelle-Orléans, en effet.
Et oui, car c'est une période de formidable essor économique pour les États-Unis et le Nord-Est industriel a un très fort besoin de main-d'œuvre, Pauline Perret.
Oui, à partir de 1915, on voit arriver ce qu'on a appelé la grande migration, qui va durer, en fait, jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Et cette grande migration, c'est la migration des Africains-Américains, enfin, d'une grande partie d'entre entre eux, du sud vers le nord. Et ils sont appelés en fait par des rabatteurs de main-d'œuvre, hein, des grandes industries du nord, donc les abattoirs dont on a entendu parler tout à l'heure, la scierie, la métallurgie, des industries qui se développent beaucoup et qui ont besoin d'une main-d'œuvre pas nécessairement qualifiée, qui pourront payer pas cher. Et la raison pour laquelle c'est en 1915 qu'on appelle de la main-d'œuvre du sud, c'est que c'est le moment où les États-Unis commencent à se refermer et donc n'ont plus cette main-d'œuvre immigrée qui vient d'Europe. Et donc il faut trouver des remplaçants aux Irlandais, aux Italiens qui bossaient jusque-là dans tous les quartiers dont il a été question à Chicago. Mais c'est un peu les mêmes phénomènes qui se produisent à New York. Et puis par ailleurs, enfin, on a dit que les conditions de vie des Africains-Américains dans le sud étaient assez déplorables, qu'il y avait une grande pauvreté, qu'il y avait une difficulté à sortir du King Cotton, de cette dépendance au coton, et qu'il y avait une aspiration à une vie meilleure. Et en fait, il y a des lettres qui se mettent à arriver des grandes villes du Nord, des Africains-Américains écrivant à leur famille, ben finalement, c'est pas si mal ici, viens tenter ta chance, tu vas trouver du travail. Et donc, il y a cette illusion que la vie dans le Nord va être nettement meilleure que la vie dans le Sud. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elle est très différente, mais il y a aussi des phénomènes de ghettoisation et de prolétarisation qui vont se mettre en place. Et en fait, c'est sur ce chemin du Sud vers le Nord que le jazz va se greffer. Et donc, en fait, les parcours dont il était question tout à l'heure des musiciens sont des parcours qu'on prie, qu'on fait aussi d'autres africaines américaines et africains américains pour chercher du travail.
Et Chicago fait partie des villes qui accueillent le plus de musiciens africains américains, Pauline Pérez.
Oui, Chicago et le South Side plus particulièrement dont il était question, ce quartier noir qui va se développer à partir de l'entre-deux-guerres, ainsi que Harlem à New York vont devenir des lieux où vont s'installer les clubs. Alors, il y a différents circuits qui amènent jusqu'au nord. Les musiciens qui viennent à Chicago passent pas mal par Clarksdale, dans le Mississippi. Et puis, se reconstitue sous une autre forme, une vie musicale, alors destinée pas seulement aux Africains-Américains, mais aussi aux Blancs. Et là, je pense que c'est aussi un élément de transformation importante, de dire que cette musique qui est dite musique noire, et en fait, c'est quelque chose dont on peut vraiment discuter, parce que ce terme de black music, il est discutable, mais cette musique noire, elle va s'ouvrir au reste de la société.
Pourquoi il est discutable ?
Alors, est-ce que ça n'essentialise pas la musique ? Qu'est-ce que ça veut dire une musique noire ? Est-ce que c'est pas plutôt une musique qui a des caractéristiques que n'ont pas des musiques euro-américaines ou des musiques européennes, avec des éléments comme l'improvisation, le call and response, une grande part, enfin la syncopation, une grande part d'improvisation, je crois que je l'ai dit. Enfin bon, je pense que vous pourrez répondre mieux que moi à cette question, mais je pense que la réflexion sur l'appellation black music, elle est importante parce que elle fige en fait le jazz, qui est une forme qui évolue notamment dans sa rencontre avec d'autres musiques et d'autres publics.
Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Cuny ?
Oui, je partage cet avis. C'est une question très, très compliquée qui n'est jamais tranchée. En plus, elle est assez sensible, hein, surtout aux États-Unis, parce qu'évidemment, il y a des enjeux à la fois mémoriels et actuels. Donc, c'est une discussion qui est assez difficile à tenir. Mais je pourrais ajouter à ce qui a été dit, c'est que dès le début, en particulier à Nouvelle-Orléans, il y a vraiment trois communautés. Il y a les Afro-Américains, les Euro-Américains et les Créoles. Et tout ce monde-là, en fait, coexiste assez bien. Les musiciens, j'allais dire, sont moins racistes que la moyenne, c'est-à-dire qu'en fait ils se connaissent, alors ils ont du mal à jouer ensemble à cause du contexte justement, mais c'est pas forcément antagoniste. Et donc il y a des musiciens blancs de fait, et sans parler des créoles, qui ont participé à la naissance du jazz. Donc est-ce qu'il faut les exclure au nom d'une comme il vient d'être dit, d'une naissance noire? C'est quand même difficile. En même temps, on peut pas nier l'ancrage dans une culture afro-américaine qui est quand même fondamentale. Donc c'est toujours un peu les bouteilles à moitié vides ou pleines.
Et sur cette grande migration, on peut dire, Laurent Cuny, que le parcours de Louis Armstrong, par exemple, est emblématique de ce mouvement qui emmène, enfin qui en tout cas voit les musiciens de jazz du Sud partir vers le nord des États-Unis.
Oui, bien sûr, parce que de fait, c'est King Oliver dont vous avez parlé, qu'on a entendu, était son mentor. C'est lui qui lui a appris, et donc il joue dans son orchestre. Et quand Joe Oliver décide d'aller à Chicago, eh bien il suit et il se retrouve. Il va assez vite prendre le dessus, d'ailleurs, sur son maître. Il fait un passage à New York, il revient. Donc en effet, il est assez représentatif. Mais il faut dire aussi qu'il y a du jazz dans tous les États-Unis dès le début. Hein. Il y en a à San Francisco, Duke Ellington et à Washington. Il n'est pas allé à la Nouvelle-Orléans. Pourtant, il fait une musique qui est très proche. C'est pas seulement un axe, la Nouvelle-Orléans, Chicago, New York. Ça se répand très vite. Et même l'action de la naissance à la Nouvelle-Orléans, bon, je pense qu'il n'est pas utile de la remettre en cause, parce que je pense que c'est ce qui s'est passé. Mais il y avait d'autres foyers aussi.
Et une fois cette grande migration entamée, quelle économie du jazz se met alors en place dans ces villes industrielles du nord des États-Unis ?
Vaste question. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a déjà il y a une nouveauté qui est fondamentale, c'est l'arrivée de la phonographie, des disques. Qui était inventé 40 ou 50 ans avant, mais qui ont pris un essor, c'est devenu une industrie très très rapidement. Hein. Et donc, dès les années 10, en fait, on considère que le premier disque de jazz, c'est 1917, et dès ces années-là, ce sont des disques qui se vendent à des centaines de milliers, voire des millions d'exemplaires. Donc, c'est très significatif sur le plan économique. Et par exemple, et donc, il y a une économie de la musique afro-américaine, phonographique. Mamie Smith enregistre en 1920 et elle vend des millions de disques. Donc, on sait que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que les Blancs aussi achètent ces disques-là. C'est-à-dire que cette musique afro-américaine, on va se tomber d'accord là-dessus, elle touche d'autres communautés. Et de plus, on se rend compte aussi que les Afro-Américains, tout prolétaire et dans le bas de l'échelle sociale américaine, ont quand même un pouvoir d'achat et qu'ils achètent des disques aussi.
Pauline Pérez, sur cette économie du jazz dans les années 20, on va voir qu'elle va évoluer bien sûr.
Oui, alors cette économie du jazz age, hein, comme l'a appelé Phil Gerald, elle tient aussi à la prohibition qui va en fait permettre de développer un certain type de lieu pour écouter le jazz. Alors la prohibition, c'est l'interdiction du commerce et de la vente d'alcool qui va être contournée par des hommes d'affaires plus ou moins mafieux qui vont créer des clubs dans lesquels l'alcool pourra être vendu ou est consommé de manière illégale. Et c'est ce qu'on appelle les speakeasies. Et alors, il y en a, on en voit pas mal à Chicago naître, à Harlem, à New York. Et donc, dans ces speakeasies, il y a les patrons ont la volonté de faire venir des musiciens qui sont petit à petit deviennent des jazz bands et qui, en fait, attirent des clients qui ne sont pas seulement des clients africains-américains. Et c'est ce qu'on voit tout particulièrement dans les jazz clubs de New York, où il y a toute une forme d'amateurs blancs de musique qui viennent s'encanailler dans les jazz clubs, donc s'encanailler parce qu'ils viennent consommer de l'alcool, ils viennent danser une musique que les conservateurs de l'époque disent une musique lascive, une musique subversive, parce qu'on la danse proche du corps de l'autre. Et puis, on traverse la ligne de couleur, qui est une ligne symbolique, hein, qui est une ligne qui n'existe pas matériellement, mais qui partage les communautés noires et blanches.
Et oui, à partir du 16 janvier 1919, aux États-Unis, il faut ruser pour continuer à servir de l'alcool.
Bonsoir, monsieur. Je suis monsieur Mozzarella. Que puis-je faire pour vous ?
Je vais aux obsèques de ma tante.
Je n'ai pas l'impression de vous avoir déjà vu à nos enterrements.
On m'a défendu la bière.
Mon Dieu.
Où a lieu la veillée mortuaire, je suis croque-mort de mon métier.
Veuillez l'accompagner à la chapelle, prie Dieu numéro 3.
Oui, monsieur Mozzarella, par ici. Ah, c'est pas trop triste de quitter la vie comme ça.
Veuillez me suivre. Que prendra, monsieur ?
Du whisky.
Désolé, nous ne servons que du café.
Du café ?
Du scotch café, du Canadian Club café ou du maro café ?
Du scotch. Servez-moi une bonne tasse avec du soda à côté.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Nous parlons de l'économie selon les musiciens de jazz avec Pauline Perretz et Laurent Cuny. C'était un extrait du film de Billy Wilder, Certains l'aiment chaud, qui met en scène deux musiciens de jazz au chômage. L'économie du jazz est en effet alimentée par la prohibition qui va durer 13 ans, Laurent Cuny?
Oui, oui. Bon, je crois que l'essentiel vient d'être dit à ce sujet-là. Il est vrai que ça a été un élément important. Et en même temps, il faut aussi le replacer dans le contexte. C'est toujours très difficile de désigner un élément qui serait privilégié par rapport aux autres. Il y a un ensemble. Il y a un faisceau d'événements qui concourt à une certaine économie du jazz comme elle est à l'époque. Et effectivement, la prohibition est probablement parmi les plus importants.
Mais à cette époque, il n'y a pas encore de concerts de jazz en tant que tel, Laurent Cuny?
Non, les concerts, ça n'existe pas encore. Ça apparaîtra au milieu des années 1930. L'idée qu'on arrive dans un lieu, qu'on s'asseye, qu'on est payé, qu'on s'asseye pour écouter de la musique sans rien faire d'autre, c'est assez relativement récent. Ça arrive, oui, milieu de la décennie 1930.
Et donc il y a une culture illégale qui se met en place dans ces speakeasies, cette culture est à l'origine des clubs Black and Tan, dans lesquels des clients blancs et noirs se côtoient. Black and Tan, c'est le nom d'un court-métrage de Dudley Murphy de 1929, dans lequel Duke Ellington apparaît pour la première fois à l'écran.
Well, you're not gonna take my piano, are you?
I ain't gonna take your icebox.
Why, you ain't paid nothing on it since last October.
Espers?
Yeah.
Do your duty.
What you gonna do?
Well, I got two pieces and you ain't got but one.
Duke, I've got some wonderful news. I've just landed a job in a nightclub. And I'm gonna dance. And you're going to play. Isn't that wonderful?
Yeah.
Hey, what are you boys doing here?
We're moving the piano.
Oh, you can't take off piano.
We done taken it. Come on, Sarsaparilla.
Oh, say, wait a minute. Here's $10. $5 a piece. Okay.
No, ma'am, lady. We don't do business that way. No. Come on, eczema.
Voilà, dans ce film de 19 minutes, Duke Ellington joue un pianiste qui est dans une situation financière tellement catastrophique que deux hommes mandatés par un huissier viennent confisquer son piano. C'est un film qui permet peut-être de prendre la mesure de la précarité des musiciens de jazz dans les années 20, Laurent Cuny.
Oh oui, bien sûr, ça c'est évident. Enfin, il y a quelques vedettes et encore, elles sont à des niveaux financiers qui sont très inférieurs à leurs confrères blancs, hein, qui certains musiciens de jazz, plutôt à partir des années 30. Ce qui va beaucoup changer, c'est la swing craze, comme on l'appelle, c'est la mode de la danse dans des grandes ballrooms. Là, ça va vraiment entraîner une nouvelle économie. Mais de toute façon, ça a toujours été comme ça. Les Afro-Américains ont toujours gagné moins d'argent que les blancs, et dans le jazz comme probablement ailleurs.
Sur la précarité des musiciens de jazz, Pauline Perretz, dans les années 20.
Oui, ce qui est un peu déconcertant, c'est de voir qu'en fait, ce jazz qui va africain-américain, qui est joué dans des endroits qui sont des black venues, va être quelquefois copié, imité par des danseurs ou des musiciens blancs et qui vont performer dans des théâtres blancs. On voit ce phénomène très bien à New York, donc les tubes de Harlem vont être copiés pour Broadway, qui vont être performés quelquefois par des musiciens blancs et qui eux vont avoir des salaires des cachets qui sont bien différents. Donc on voit comme cette musique va finalement rémunérer des musiciens blancs et noirs de manière très différente, effectivement, comme les rémunérations sont racialement biaisées dans tous les autres domaines de la société américaine.
On va continuer à parler de l'économie du jazz américain, mais d'abord place à l'immense Duke Ellington.
It don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing, all you gotta do is swing. Makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm every little thing you've got.
It don't mean a thing if you ain't got that swing.
Thank you.
Me Love Thing de Duke Ellington, un titre de 1931. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Nous continuons à parler de l'économie selon les musiciens de jazz. L'ancien directeur de l'Orchestre National de Jazz, Laurent Cuny, et l'historienne Pauline Peretz sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Jérémy Kaufmann avec à la vidéo Vincent René. Avec Duke Ellington, nous sommes dans les années 30 aux États-Unis. La prohibition est levée en décembre 1933. C'était une promesse de campagne de Franklin Roosevelt. Et cette décennie qui s'ouvre va permettre au jazz de devenir une musique à part entière, Laurent Cuny.
Oui, enfin, je crois qu'elle l'était déjà depuis un moment, mais elle se transforme, évidemment. Elle suit d'abord sa propre évolution musicale, hein. Et puis, évidemment, elle est en connexion avec tout l'environnement, donc elle se modifie comme tout le reste se modifie. Et donc effectivement, c'est paradoxal parce que c'est la fin de la prohibition, mais c'est aussi un peu le sommet de la crise à cette époque-là, 1933. Donc il y a des tendances contradictoires. Et puis par ailleurs, les goûts évoluent. On a parlé de la danse déjà, mais je pense que l'esthétique de la danse change aussi, les aspirations des jeunes américains et américaines vis-à-vis de la danse, comme du reste, sont plus les mêmes, et tout ça, évidemment, ça transforme tout l'ensemble.
Quel impact la Grande Dépression, justement, a-t-elle sur cette économie du jazz, Pauline Peretz?
Alors, les Africains-Américains sont les premiers touchés par la Grande Dépression, hein. Roosevelt met en place des mesures, dites mesures de New Deal, qui vont essayer de corriger cette destruction des fondamentaux de l'économie américaine. Mais les mesures sont pensées, sont dirigées vers des emplois dans lesquels ne se trouvent pas les Africains-Américains. Donc, ils ne sont pas discriminés en tant que noirs, mais ils sont de fait tenus à l'écart parce qu'ils ne sont pas dans les emplois qui vont bénéficier des mesures de relance. Donc, les Africains-Américains sont, notamment ceux qui vivent à la campagne, dans les environnements ruraux, sont extrêmement touchés et sont beaucoup plus atteints que les Blancs. Et donc, en fait, la façon dont les Africains-Américains vont bénéficier des mesures du New Deal, elle est très indirecte et elle est artistique, en fait. Parce qu'il y a, dans le New Deal, tout un programme de mise au travail des artistes, des écrivains, des folkloristes. Et une partie de ce programme vise à recueillir, en fait, toute une tradition orale par des anthropologues, des folkloristes. Et dans le cas de ces programmes, qui sont des programmes subventionnés par l'État fédéral, eh bien, il y a des gens qui vont dans le Sud et qui vont recueillir des chants, qui vont recueillir des histoires. Et ces chants, qui n'avaient pas nécessairement de forme écrite, qui étaient transmises dans les familles, vont être enregistrés. Et c'est notamment le cas du travail de Zora Neale Hurston, qui est cette grande écrivaine africaine-américaine, qui a une formation d'anthropologue, qui va en Floride, qui va dans d'autres endroits et qui va avec un magnétophone, elle-même, elle est africaine-américaine, et qui va mettre des familles en confiance pour qu'il ou elle chante les chansons qui sont sont chantées et qui sont donc, là je ne parle pas du jazz, du circuit commercial, mais de chansons, de musique qui passent dans les familles. Et puis il y a aussi tout le travail d'enregistrement de Lomax qui vient dans le sud et qui cherche à garder une trace permanente de musiques qui n'ont pas nécessairement été enregistrées.
Et donc cette Amérique des années 30, c'est à la fois l'apparition d'un nouveau style jazz, le swing qui s'impose comme la musique de référence qui envahit les salles de concert et les ondes radio, et en même temps l'appauvrissement de toute une partie de la population américaine, et en particulier la population africaine-américaine, Pauline.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais c'est aussi le moment où on va commencer à avoir des musiciens noirs dans des films all black cast, hein, des films qui sont entièrement joués, interprétés par des Africains-Américains, et c'est un domaine dans lequel il va avoir une promotion, en fait, d'abord publique, et puis ensuite une promotion, enfin un débouché de carrière pour certains, hein. Bien évidemment pas pour tous, mais certains musiciens, certains chanteurs, je pense particulier à la chanteuse Lena Horne, qui va devenir vraiment une des stars de la musique noire, et il n'est pas complètement anecdotique de dire que Lena Horne, elle est métisse, et qu'elle peut passer pour blanche, et qu'elle devient cette femme centrale d'une industrie qui est établie à Hollywood, et qui va produire, enfin qui va donner à voir la musique sur les écrans.
Et dans cette période de grave crise économique, ce qu'on observe, un peu paradoxalement, Laurent Cuny, c'est que les orchestres s'étoffent, ils comptent de plus en plus de membres.
Oui, oui, on sait de toute façon que les périodes de guerre ou de grandes difficultés économiques, l'industrie du loisir, pour le dire vite, parfois est florissante, oui, justement parce que les conditions sont tellement difficiles que les gens aspirent à s'évader, et ça peut aboutir à des contretemps un peu comme ça, où l'industrie du loisir se trouve moins atteinte par l'économie de guerre, disons. Et oui, en effet, il y a tout ce mouvement. On a parlé de la radio, qui est très importante aussi. À partir du milieu des années 30, c'est surtout Benny Goodman qui devient une star nationale du jour au lendemain, grâce beaucoup à la radio. Et en effet, les orchestres sont plus nombreux. Enfin, il y a toujours eu des big bands, hein, mais ils sont de plus en plus nombreux. Je pense que c'est aussi à cause de la taille des salles de bal, les ballrooms qui sont de plus en plus grandes, et qu'à l'époque, il n'y a pas encore d'amplification, et donc il faut des orchestres assez conséquents pour que les danseurs puissent les entendre. Mais je pense que globalement, c'est surtout une modification du goût musical, de la musique que les danseurs ont besoin pour pouvoir danser comme il faut. Et donc, il y a des musiciens qui comprennent ça. Benny Goodman est le plus connu, hein, et donc qui s'adaptent tout en faisant évoluer leur propre musique. Bon, mais il faut dire aussi que les deux circuits sont entièrement séparés, hein. Il y a un circuit afro-américain, un circuit blanc. C'est pas exactement les mêmes musiques, mais ce sont des big bands aussi, des grands ensemble qui jouent pour la danse dans les deux cas, mais c'est entièrement étanche. Il n'y a pas
d'orchestre composé d'instrumentistes.
Non, mais surtout un orchestre blanc, public blanc, et orchestre noir, public noir. Ça se mélange quasiment pas. Justement, Benny Goodman va être un des premiers à casser un peu la color line en prenant des musiciens noirs dans son orchestre, ce qui lui a posé beaucoup de problèmes. Mais comme il était justement une star, il pouvait imposer certaines choses.
Et quels sont les clubs new-yorkais qui règnent sur ce monde du swing, Laurent Cuny?
C'est pas tellement. Il y a le Roselawn Ballroom qui est le plus connu. Il y en a d'autres. Bon, il y a toujours le Cotton Club, mais qui a un statut particulier. On en a parlé tout à l'heure. Il a été ouvert par un champion du monde de boxe afro-américain, mais le public était entièrement blanc, à quelques exceptions près, avec des musiciens noirs. Mais surtout, ce phénomène de la swing craze, ça touche tout le pays. Il y a des salles de bal vraiment dans tout le pays. Donc, il y a des orchestres de notoriété nationale, et d'autres qu'on appelle les Territory Bands qui œuvrent autour d'une grande ville ou dans un état donné. Et il y a en effet des milliers d'orchestres de chaque côté, du côté noir et du côté blanc.
Il y a une date importante à retenir, c'est le 16 janvier 1938, c'est un concert historique de Benny Goodman. C'est souvent la date que l'on retient pour dire que c'est un moment où là, même la haute société new-yorkaise s'ouvre au jazz.
Ça, c'est le concert de Carnegie Hall, c'est ça?
Oui.
Alors, oui, c'est une circonstance un peu particulière, mais qui est révélatrice aussi. C'est un producteur blanc qui s'appelait John Hammond, qui était l'héritier d'une grande famille, donc très riche, et qui avait une passion pour la musique afro-américaine, qui est devenu l'agent de Count Basie, d'ailleurs, et qui a vraiment promu la musique afro-américaine, et il a décidé, en effet, de l'amener dans la salle de concert, et pas n'importe quelle salle, puisque c'était le Carnegie Hall, où des musiciens afro-américains, pour la première fois, ont pu jouer là. Donc, en effet, c'est une date repère, oui.
France Culture.
If it's to play jazz, we'll work any place.
But wait a minute, Nick. You've got a corner on this dance music.
Nobody's got a corner on this music, Tommy. It belongs to everybody.
But we could open up another place.
No, Tommy, you're taking the first train out in the morning and you're to get every jazz man you can find and bring him here.
Entendez-vous l'écho?
Tommy, we're going to sell jazz.
Tiphaine de Roquigny.
On a dit que l'industrie du disque avait été décisive dans l'essor du jazz, qu'elle avait donné un nouvel élan économique à ce genre musical. Est-ce que c'est aussi le disque qui permet la diffusion du jazz en Europe notamment, ou est-ce que c'est plutôt les tournées des musiciens américains, Laurent Cuny ?
Oh, ce sont les deux, évidemment. Mmh. Il est vrai que les musiciens américains ont très très vite... essaimé, si je puis dire, et ils ont parcouru le monde entier. Sidney Bechet était en Russie, il y en a qui sont allés jusqu'en Chine dès les années 1920. Mais il est vrai que les disques ont été fondamentaux. Alors, en France, en particulier, ils sont arrivés un peu plus tard. Il faut attendre 1929-1930 pour avoir les premiers disques de Louis Armstrong ou de Kennington. Ça fait donc une différence de 5-6 ans, c'est pas énorme, mais à l'échelle de cette histoire-là, c'est quand même beaucoup. Et oui, de toute façon, sans le disque, il n'y aurait pas eu de jazz, tout simplement. Enfin, ce serait resté probablement une musique folklorique locale, donc ça fait partie intégrante et même une partie intime de l'histoire du jazz et de son économie, par conséquent.
Des disques qui font partie des bagages des soldats américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, Pauline Perret.
Oui, tout à fait, mais dès avant la Seconde Guerre mondiale, en fait, les soldats africains-américains qui combattent en Europe et en particulier en France sont, pour certains d'entre eux, ceux qu'on a appelés les Harlem Hellfighters, et qui arrivent avec le jazz, avec une fanfare, et qui restent un peu de temps en France, notamment parce qu'ils ont réussi à aider, à débloquer certaines offensives qui vont s'avérer décisives pour l'issue de la guerre. Et donc, ces Africains-Américains qui ont combattu sous commandement français, et pas sous commandement américain, vont être très bien accueillis et rester un petit peu à Paris, aux alentours de Paris. Et c'est à ce moment-là que le jazz va commencer à être connu. Et en fait, j'aimerais insister sur, dans le prolongement de ce que disait Laurent Cuny tout à l'heure, sur le fait que, en fait, le jazz va devenir clé pour l'image des États-Unis à l'étranger. Et ça se joue, en fait, dès cette implication des soldats noirs de Harlem dans le combat.
Il va devenir un outil de propagande.
Alors, je vais pas dire propagande dès l'entre-deux-guerres, mais lorsqu'on entend parler des tournées des jazzmen noirs en Russie soviétique dès l'entre-deux-guerres, là, c'est pas les États-Unis ou comme ce sera, enfin le département d'État comme ce sera le cas après la Seconde Guerre mondiale qui organise les tournées, mais c'est l'Union soviétique qui va inviter les jazzmen noirs parce qu'ils ont à la fois conscience de leur talent, mais aussi parce qu'ils comprennent que l'inégalité raciale aux États-Unis, c'est en quelque sorte une porte ouverte pour la proposition d'un contre-modèle qui est égalitaire. Et donc on voit beaucoup, il y a des danseurs aussi, des boxeurs africains-américains qui vont en Union soviétique et qui sont accueillis véritablement comme des héros, comme des gens de grand talent. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver plus tard, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, à l'initiative, cette fois, du département d'État, qui va comprendre que cette musique qui est si entraînante, qui peut être si joyeuse, pas toujours, mais et qui peut être utilisée comme une promesse d'égalité, comme une promesse de dialogue interracial, et qui va donc utiliser certains musiciens qui accepteront les tournées proposées par le département d'État pour propager cette promesse d'égalité, quoi, et l'incarner, en fait.
Et ce sont des musiciens qui, ensuite, vont prendre conscience du fait qu'ils sont instrumentalisés, en réalité, Pauline Perret.
Alors, certains d'entre eux vont arrêter les tournées. C'est le cas de Joséphine Baker, hein, qui chante au départ un peu en Amérique latine avec le département d'État, et puis qui va à la fois être d'abord interdite de tourner parce qu'elle est beaucoup trop critique sur les inégalités raciales aux États-Unis. Et en fait, elle utilise même ses tournées pour faire connaître à l'étranger la ségrégation, le double standard américain. Et donc, elle va être muselée, on lui retire son passeport. Puis il y a aussi Louis Armstrong qui, en 57, va décider de ne pas partir en Afrique au moment des événements de Little Rock. Donc, cette résistance qui a en Arkansas à la déségrégation des écoles, alors même que la Cour suprême avait stipulé que les écoles devaient être désormais intégrées racialement.
Laurent Cuny, peut-être sur cette utilisation du jazz, alors d'abord pendant la Seconde Guerre mondiale pour divertir les soldats, mais ensuite comme un outil de propagande américaine ?
Oui, en effet, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui vient d'être dit.
Il y a des disques de la victoire qui sont produits à ce moment-là.
Oui, les disques, ça c'est pendant la guerre, oui. Oui, en effet, ça fait partie de la... C'est une des rares périodes où le jazz est la musique des jeunes, si on peut dire. Donc évidemment, ça sert pour toucher cette population-là. Ça va vite changer, surtout avec l'arrivée du rock'n'roll, où là, tout ce continent va se déplacer. Oui, en effet, c'est une arme. En même temps, c'est quand même, enfin, il me semble que c'est un peu marginal aussi. Le jazz a son développement propre. Et, disons, ce n'est qu'une partie de l'image qui est quand même, pour moi, qui est pas décisive quand même.
Mais ce sont des très grands noms du jazz quand même qui sont réquisitionnés pour cette entreprise.
Oui,
vous l'avez dit,
oui.
Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Lena Horne.
Oui, Dizzy Gillespie aussi, oui. Qui au fond, je prends aussi, sont des pragmatiques, hein. Ils saisissent les occasions de jouer à l'étranger. Et ils n'en pensent pas moins, mais ils l'ont fait quand même, quoi.
Les années 50 qui sont celles du très grand Miles Davis.
Thank you.
Vous écoutez la bande originale d'Ascenseur pour l'échafaud, le film de Louis Malle réalisé. Le film réalisé par Louis Malle et la bande-annonce a été réalisée par Miles Davis en 1957. Comment le musicien américain en est-il venu ainsi à composer la musique d'un film français, Laurent Cuny?
Oh, il l'a pas vraiment composé. C'est un peu un concours de circonstances. À l'époque, il était déjà... C'était pas encore une vedette, mais c'était déjà un musicien important. Mais quand il venait en France, c'est la deuxième fois qu'il vient, il n'avait pas encore suffisamment d'autorité pour venir avec son propre orchestre. Donc, il faisait ce qu'il faisait beaucoup à l'époque, il venait seul et il jouait avec des rythmiques françaises. Ce qui est le cas, d'ailleurs, dans ce qu'on vient d'entendre. Et donc, il était à Paris à cette époque-là, et il était payé à la semaine, et avec certains engagements dans des clubs parisiens. Et donc, à un moment, la personne qui l'a fait venir connaissait Louis Malle, qui avait pas trop d'idées, apparemment, pour son film. Et donc, il lui a dit, y a un musicien américain qui est là, et si tu veux, on peut faire ça. Donc, il a pas vraiment composé. Il y a presque pas de composition là-dedans. C'est vraiment des fragments qu'il a joué en regardant le film. Donc, avec cette rythmique française. Et ça donne une des plus belles musiques de film qui existe. Donc, c'est une jolie histoire, mais qui était très peu préméditée, en fait.
Et c'est un moment qui correspond au début de la fin de l'âge d'or du jazz américain. Est-ce là en raison de la concurrence du rock?
Ah oui, ça fait absolument aucun doute. Enfin, tout, c'est très bien documenté. En effet, c'était très cruel pour les musiciens de l'époque, parce que dans les 50, en plus, il y avait eu ce revival New Orleans avec Sidney Bechet qui s'était installé en France. Et ça mobilisait vraiment des foules. C'était une musique très populaire, en fait, qui était la musique de la Nouvelle-Orléans de l'époque, qui était revue, mais par un de ses fondateurs, Sidney Bechet. C'est cette musique-là que la jeunesse d'après-guerre avait plébiscité. Et puis quand est arrivé le rock, avec la génération juste après, là, au contraire, il y a eu une chute très violente, et à partir du début des années 60, il y a vraiment eu une crise de l'économie du jazz en France avec les yéyés, comme on disait, mais aux États-Unis, il s'est produit à peu près la même chose. Donc là, c'est une sorte d'entrée en sous-marin, dont on n'est jamais vraiment sorti, d'ailleurs.
La pire décennie pour le jazz, on peut dire que c'est les années 80, c'est un recul net de popularité du jazz.
Un peu dramatique, mais oui, de fait, c'est une baisse d'une économie globale, avec toutes les conséquences que ça a. Bon, pourtant, ça n'a pas tué le jazz et il s'est fait. Les musiciens de jazz, qu'ils soient blancs ou noirs, ils se sont toujours adaptés de toute façon. Mais il est indéniable que tout d'un coup, oui, il y a une chute de niveau de vie.
Pauline Pérez.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, le jazz va devenir une musique qui est progressivement une musique pour l'élite, qui est une musique qui va être enseignée, alors qu'elle ne l'était pas, elle était apprise entre amis, où on chopait un son, on chopait un rythme. Et donc, c'est une musique qui s'intellectualise, qui devient la musique de l'élite, et en même temps, c'est une musique qui va devenir plus blanche. Enfin, en tous les cas, c'est une musique qui va être davantage encore jouée par des blancs. Et pas seulement des blancs, enfin, il y a des Japonais qui vont se mettre au jazz, enfin, c'est une musique qui finalement se déterritorialise. Et il y a d'autres musiques dites noires qui apparaissent progressivement, et notamment dans les années 80, et c'est qui contribuent aussi à éclipser le jazz.
Lesquelles, par
exemple? Le rap, et puis après le hip-hop. Hein. Et c'était une histoire qui était très bien racontée, notamment dans l'exposition Black Music qui a été montré à la Philharmonie il y a quelques années, et on voyait bien comment il y a des éléments de structure qui se retrouvent dans ces différentes musiques, du jazz au rap, au hip-hop, et que finalement, ça amène au déclin des musiques qui font finalement des musiques du 19e, 20e siècle au profit d'autres formes.
Le jazz qui était populaire devient en effet progressivement un genre musical de niche, Laurent Cuny.
Oui, ça a même commencé avant, ce mouvement-là. En fait, dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale, avec ce qu'on a appelé à l'époque le rhythm and blues, qui est devenu dans les années 60, rhythm and blues, soul music, toute cette galaxie musicale qui en fait était déjà une musique de afro-américain qui se détournait du jazz. Et en effet, ça a été encore amplifié dans les années 80 avec le rap et le hip-hop. Mais oui, je pense que ça commence très tôt, disons à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais.
Je crois que le moment est venu de te faire un aveu. Il faut vraiment que ça sorte. Mmh. Je déteste le jazz.
Qu'est-ce que tu veux dire, tu détestes le jazz?
Je veux dire que quand j'en écoute, j'aime pas.
Je trouve que tu généralises un peu trop quand tu dis j'aime pas le jazz. Pour moi, tu vois, quand les gens disent qu'ils détestent le jazz. Ils ont pas le contexte, ils savent pas d'où il vient. Tu comprends? Tu vois, le jazz est né dans une espèce de foyer à la Nouvelle-Orléans. Les gens qui s'entassaient là-dedans parlaient 5 langues différentes et ils se comprenaient pas. Le seul moyen de communiquer, c'était par le jazz.
Oui, mais Kennedy alors?
Quoi?
Oui, parle-moi de Kennedy. Lui, il joue plutôt de la musique d'ascenseur. Tu vois, c'est la seule musique de jazz que moi, je connaisse.
Eh ben quoi?
Eh ben, c'est ma référence. Et je trouve cette musique-là relaxante.
C'est pas pour se relaxer, non, c'est tout sauf ça. Sidney Bechet a tiré sur un mec qui lui avait dit qu'il avait fait une fausse note. Le jazz, ça n'a rien de relaxant.
Là où j'ai grandi, il y avait une station de radio qui s'appelait K Jazz 103. La plupart des gens mettaient toujours cette radio quand ils faisaient des cocktails dans leur maison.
Je vois.
Et tout le monde parlait, discutait par-dessus.
C'est en train de mourir. De s'éteindre, rien. Le jazz est en train de périr. Et le monde entier dit qu'il meurt. Il a fait son temps, tant pis.
Oh, baby, won't you play me the jazz hot? Maybe, and don't ever let it. Friend, it's really something to hear. I can't sit still when there's that rhythm near me.
On a entendu un extrait de La La Land, le film de Damien Chazelle de 2016 avec Emma Stone et Ryan Gosling, qui évoque ce recul du jazz. Et c'était une façon de clôturer cette passionnante discussion. Merci beaucoup Pauline Pérez et Laurent Cuny de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Pauline Pérez, je renvoie les auditeurs à vos ouvrages. Il y a l'Amérique post-raciale, point d'interrogation, qui est paru aux presses universitaires de France. Et vous avez également publié Une armée noire, Fort Huachuca, Arizona, 1941-1945, aux éditions du Seuil. Et Laurent Cuny, je renvoie aussi les auditeurs à votre Histoire du jazz, une musique pour les 20e et 21e siècles, aux éditions Frémaux Associés. Un grand merci encore à tous les deux.
Basil Palace. Je me brise comme un pot de fleurs, toujours à fleur de peau. Je repousse tout faute de peur et les gens croient que je pleure pour de faux. Mais tu sais, j'ai autant de peine que de défauts. Si tu comptes jusqu'à 100, le compte sonnera toujours faux.
Tu sais, j'y penserai tous les soirs. Je suis pas rare, pas de défense sans les voir. Dorénavant, plus le temps d'y croire. Dans ma chambre et dans ma vie, j'aimerais bien t'y voir.
Et au fond de mon sang, toi tu bats dans mes veines. Mais je sais que tu sais que ce n'est plus la peine.
Dans un flot d'épreuves, autour de mots que j'effleure, des pulsations qui pleurent et qui ralentit chaque heure. Tout est froid sans ta chaleur, et mon cœur est un lâcheur. Il se bat plus comme pacifiste, les blessures s'effacent pas si vite. Et si le ciel est bleu comme mes veines, il suffirait que je les ouvre pour que tout devienne rouge. L'orage fait rage, je sais que mes chansons sont vaines. Tu écoutes plus rien, donc c'est après le temps que je cours.
Alors j'aimerais peut-être que mes doutes se dissipent comme ta présence en un battement de cils depuis que je redoute ceux de mon cœur qui n'aime pas ce présent.
Et au fond de mon sang, toi tu bats dans mes veines. Mais je sais que ce n'est plus la peine. Et mon cœur se brise en mille morceaux de toi. Et au fond de mon sang, toi tu bats dans mes veines. Mais je sais que ce n'est plus la peine. Et mon cœur se brise en mille morceaux de toi. Se brise en mille morceaux de toi. J'écris mille morceaux sur toi. Quand mon cœur se brise en mille.
C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. On se quitte avec Mille morceaux, le nouveau titre du formidable Basil Palace. Demain, avec ses invités, Aliette Ovine reviendra sur le marché européen de la voiture électrique menacée par la surproduction chinoise avec Juliana Bouchot et Bernard Julien. D'ici là, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Et vous pouvez aussi nous retrouver en vidéo sur YouTube.
Mais je sais que tu sais que ce n'est plus la peine. Et mon cœur se